Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. Je suis avec un auteur un peu particulier pour moi, puisque c'était il y a longtemps, c'est le premier auteur de bande dessinée que j'ai interviewé, c'était pour un album sur la guerre de Corée, qui s'appelait La douceur de l'enfer, donc ça fait quelques années, on va pas dire exactement quand, parce que...
Ouais, bonjour en tout cas.
12-13 ans.
Oui, voilà, c'est ça, une douzaine d'années.
Donc je suis avec Olivier Granson ou Granson ?
On dit Granson, on peut dire les deux.
Donc Olivier Granson. Voilà. Bonjour Olivier, je suis vraiment enchanté de te retrouver. Et première question de toutes mes bulles d'histoire, c'est qui es-tu ?
Mais je m'appelle Olivier Granson. Ça fait des années que je fais de la bande dessinée. Mon premier album est sorti en 1991. Une série qui s'appelait Karl & Cross. Puis j'ai enchaîné au Lombard avec... la série Nicolas Coda avec Jean Dufaux. Puis j'ai commencé à faire des albums, des one-shots, La Femme Accident, La Douceur de l'Enfer, cette histoire qui se passe entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et puis Main 13 Mystery, Un nageur solitaire, puis La Fée Assassine avec mon épouse. Et puis maintenant, le nouvel opus tout seul, scénario, dessin, couleur, qui s'appelle Le Partage des Mondes.
Donc avant de parler du Partage des Mondes, tu as un style qui est très reconnaissable. Tout le monde a un style reconnaissable, mais il y a des auteurs qui ont un style vraiment très particulier, qu'on reconnaît à la première case. Comment tu pourrais définir ton style ?
Très difficilement. Je le définirais par un certain classicisme, mais qui se réinvente par la couleur, par une espèce de douceur, un côté un peu fluide comme ça dans le dessin. Mais j'ai difficilement un regard sur mon style, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très intuitif, qui vient notamment avec les outils, et c'est surtout l'histoire qui m'emmène dans un dessin qui peut être spécifique, parce que je suis capable de faire un dessin très réaliste, puisque je l'ai fait avec Jean Van Am pour un 13 Mystery, mais de partir, c'est le cas pour le Partage des Mondes, dans un dessin complètement réinventé, onirique, et en fait c'est vrai que je me rends compte de plus en plus que j'aime inventer des mondes en fait.
Oui, parce que tu travailles à la fois pour des choses très oniriques, des choses de la guerre, du polar, le genre est très vaste, les genres que tu abordes, mais à chaque fois c'est toujours le même dessin qui s'adapte, qui se glisse dans les pages du scénario.
Oui, c'est une façon de dessiner aussi les personnages qui fait le style, la façon peut-être en empathie vraiment avec, j'ai envie de faire en sorte qu'ils soient plus des personnages incarnés que juste des personnages de papier. Bon, je pense que c'est la quête de tous les dessinateurs. C'est très difficile de donner une étiquette à mon... En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas envie de me mettre une étiquette. J'ai eu l'étiquette du dessin franco-belge et j'essaye un peu de la faire disparaître.
Donc, des personnages incarnés dans Le Partage des Mondes. C'est des personnages qui sont très incarnés, il y a très peu de personnages. Je veux dire que moi j'ai été assez cueilli à la fin, parce que je suis rarement ému dans une bande dessinée. Ça m'arrive rarement, je ne suis pas spécialement un cœur de pierre, mais ça m'arrive très rarement. Mais là, à la fin, on a les larmes aux yeux. À la fois inattendu, et les personnages sont tellement bien dessinés, tellement bien construits, tellement bien écrits, qu'on est complètement bouleversé par la fin, alors qu'on s'y attend un peu quand même. Enfin voilà, c'est des personnages très très forts. Avant de parler des personnages, comment tu définirais cette histoire et comment tu l'as imaginée ? Qu'est-ce qui a été le déclencheur ?
En tout cas, c'est le plus chouette compliment qu'on puisse me faire, parce que on imagine une histoire et quand j'écris une histoire, j'ai envie que le lecteur, quand il referme l'album, il reste encore avec les personnages, qui est cette émotion, parce que tout le cheminement de la dramaturgie doit amener cette émotion, comment on quitte les personnages une fois que l'histoire est terminée. Donc ça, c'est, pour moi, c'est super important. Alors, pour le partage des mondes, ce qui était le point de départ, c'était un conte. L'idée d'un conte écologique. Je voulais, à ce moment-là, écrire un album jeunesse. Et donc, j'avais imaginé cet arbre aux mille couleurs, en fait, les couleurs qui sont données par des oiseaux qui viennent s'y poser au moment, en fin de vie. Donc, c'était déjà particulier. Et en fin de vie, ces oiseaux qui, quand ils sont jeunes, sont tout noirs et moches, en fin de vie, ils développent des couleurs magnifiques. C'est un peu le contre-pied de nous, êtres humains, qui vieillissons difficilement. Et donc, ça c'était le point de départ. Et puis très vite, je me suis dit, il faut un point de vue dans cette histoire. Qui raconte l'histoire? Est-ce que c'est un personnage du conte ou... Et je me suis dit, non, ça doit être un personnage extérieur au conte. Et j'aime bien positionner mes personnages humains dans un contexte un peu particulier. Et je trouve que le contexte historique de la guerre est une fracture par rapport au quotidien et donc permet de mettre les personnages avec des réactions différentes du quotidien.
Alors la guerre, c'est un moment très précis de la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qu'on appelle le Blitz, c'est quand Londres est bombardée par les armées allemandes au tout début de la guerre, fin 1940, c'est ça, oui. Donc Londres est bombardée, il y a des milliers de morts, la ville est pas complètement détruite, mais il y a des incendies, c'est assez terrifiant. Et dans ces villes, mais comme en France, comme dans plein de pays d'Europe, il y a des enfants qui sont un peu séparés, pas abandonnés, mais en tout cas qui sont mis à l'abri et qui vont disparaître ou qui vont être abandonnés. Comment, là aussi, tu t'es renseigné?
Alors, le Blitz est venu très vite. Je sais pas pourquoi j'ai tout de suite pensé au Blitz. Sans doute que j'avais vu quelque chose. En fait, de ce côté-ci de la Manche, on en parle très peu du Blitz. Hein. Je m'en suis rendu compte en faisant mes recherches. Et il y avait cette idée des enfants évacués de Londres. Et je me suis dit, ça peut être vraiment intéressant de prendre comme point de vue pour un conte une histoire qui est racontée à un enfant. Et l'idée, c'était aussi de parler des civils et des enfants qui sont les premières victimes des guerres. Quand j'ai commencé cette histoire, bon, le conte, il a été écrit il y a 9 ans. Donc, ça a mijoté, puis très vite, il y avait le Blitz, je me suis documenté, j'ai lu pas mal de bouquins, savoir vraiment comment ça s'était passé, et puis trouver des éléments qui me permettaient d'ancrer les personnages dans un contexte qui est historique. Et à l'époque, la guerre en Ukraine n'avait pas commencé. J'ai fini tout mon découpage, j'étais sur les premières planches quand la guerre en Ukraine a commencé. Et c'est vrai que je me suis dit... au départ, c'est une guerre qui n'existe plus. Et donc voilà, l'histoire m'a rattrapé. Et quand j'ai entendu que les Ukrainiens se réfugiaient dans les métros, avec les mêmes mots que je lisais dans les livres d'histoire sur le Blitz, où les habitants de la ville avaient leur maison détruite, ils se réfugiaient dans les métros, ils passaient les nuits, mais les journées aussi dans les métros, et ils devaient se retirer pour laisser passer les habitants qui allaient au travail. En Angleterre, à Londres, il y avait cette résilience et cette résistance, hein, ce qu'on appelait le spirit fighting des Londoniens, et qui, la journée, sauf quand il y avait des alertes diurnes, ils allaient travailler, il y a eu des bombardements, il y avait de la poussière, etc. Et ils étaient fringués, pimpants, pour aller travailler le matin. Et c'était vraiment ça, le symbole de la résilience qui est véhiculée dans le partage des mondes. Même si je parle pas de résilience, il y a vraiment cette idée de résistance. Et c'est vrai que Mary, cette petite fille, elle est... à sa manière, une résistante.
Oui, pour donner un peu le cadre de l'histoire, Mary, c'est une petite fille qui se retrouve séparée à la fois de ses parents, à la fois du groupe qui la protège, et qui va tomber dans les bras d'un vieux monsieur qui s'appelle Isaac, et ils vont plus se lâcher pendant un certain temps, parce qu'il faut s'occuper d'elle, hein. On sait pas où elle habite, on sait même pas comment elle s'appelle, et lui, c'est un monsieur au grand cœur qui se dit qu'il peut pas la laisser dans la rue, elle a sa peau, et il va... il va la prendre sous son aile. Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas que de la résilience, il y a aussi de l'amitié, il y a de l'amour, il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup de j'allais dire, d'anglicisme et d'anglicitude, parce qu'il y a aussi un rapport avec Peter Pan que je trouve très très beau et les enfants perdus. Cette petite fille, c'est un peu un enfant perdu de Peter Pan, un enfant perdu parmi les pirates.
J'y ai pas pensé à ça. C'est vrai, c'est parce que les choses sont venues un peu au fur et à mesure. C'est-à-dire, il y a un compte écologique, donc mon personnage est jardinier, il travaille à Kensington. Dans Kensington, il y a cette statue de Peter Pan. Donc voilà, c'est des pièces de puzzle qui viennent se mettre les unes à côté des autres. Et donc, il y a une histoire d'amour, et c'est vrai que j'en ai pas encore beaucoup parlé sur les interviews que j'ai faites, donc c'est vrai que c'est super, parce que pour moi c'est presque la partie la plus importante sous-jacente au conte et à l'histoire avec un grand H. C'est l'histoire d'amour d'Isaac, le jardinier, Isaac Green, et Eva, sa femme. Et bon, bah là, on va pas spoiler, hein, mais c'est vrai que là, à travers ses blessures à lui, se révèle vraiment une histoire, je pense, ouais, l'amour avec un grand A.
Oui, parce que c'est l'amour pour les enfants, l'amour pour les inconnus, puis c'est très con de dire ça, mais c'est l'amour de la vie, en fait, tout bêtement, quoi.
Ouais.
Il faut préserver cette petite fille.
Tout à fait.
Parce que c'est elle qui va être l'avenir et c'est elle qui va planter la dernière graine de l'arbre.
Je me suis pas rendu compte de cette idée, mais c'est vrai que c'est venu par le regard des lecteurs. C'est que finalement, cette histoire, c'est une ode à la vie. C'est de montrer que même si on est dans un contexte qui est hyper difficile à vivre, voire dramatique et anxiogène, on peut encore trouver des lueurs d'espoir. C'est une ode à la vie parce que c'est aussi se dire que l'imaginaire et le rêve peut nous sauver.
Oui, l'imaginaire, et ce qui est aussi intéressant, c'est que par rapport à l'Ukraine et à toutes les guerres, comme tu disais, c'est un conte écologique au départ. C'est quelque chose qui apparaît pas tout de suite, mais qu'on découvre, qui s'installe peu à peu, ce fameux arbre. Les gens veulent le détruire. Là, il y a aussi une belle métaphore sur le monde qui nous entoure.
Et sur la destruction, en effet, sur le monde qu'on est en train de laisser partir en vrille. Et c'est vrai qu'au départ, on pourrait se dire, tiens, la guerre, l'écologie, ça n'a rien à voir. Mais en fait, quand on voit tout ce qui se déploie sur les guerres comme destruction et comme acte contraire à justement essayer de sauver la planète et essayer de la sauver, en tout cas de faire en sorte que le CO2 soit réduit. C'est vraiment des actes qui font abstraction de cette idée de se mettre tous ensemble pour agir et pour se positionner autrement que tout ce qu'on a fait depuis le début du XXe siècle.
Alors, le très beau personnage, c'est le personnage d'Isaac, je trouve, dans cette histoire, c'est le plus émouvant, le plus touchant, le plus intelligent, celui qui a le plus de force, qui va porter toute l'histoire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui? Est-ce que d'où il vient? Est-ce qu'il existe? Est-ce que tu le connais?
Alors, Isaac, c'était évidemment le personnage qui allait raconter l'histoire. Donc quelque part, je pense que inconsciemment, il y a une partie de moi dans ce personnage. Alors, bon, il y a son nom, Isaac Green. Il y a le personnage de Rebecca qui est le personnage principal du conte. Des prénoms juifs. Je ne suis pas juif, donc voilà. Il y avait cette idée de donner aussi cette couleur au personnage qui, sans en parler, allait donner une résonance à la Shoah et à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Isaac est un personnage qui se retrouve seul, perdu, finalement, un peu comme Mary. Ils ont ce point en commun. Il n'a pas eu d'enfant. Et donc, quand il va aider Mary à retrouver sa maman, il sait pas comment faire. Donc, il va apprendre. Et même chose pour l'histoire qu'il va raconter. Il sait pas raconter des histoires, il a pas eu d'enfant, il a jamais raconté des histoires, il a juste été jardinier prendre soin du parc. Et donc avec Mary, avec la petite, il va apprendre à raconter une histoire. Donc il y a vraiment cette idée de transmission, d'où le titre, le partage des mondes. En même temps, lui, il va donner tout ce qu'il peut donner à cette gamine pour essayer de lui faire oublier la guerre et de retrouver sa maman. Mais en contrepartie, Mary, impertinente, elle va lui dire « Mais tu racontes pas bien les histoires, tu dois... » Ma maman, elle commence en disant « Il était une fois ». Et puis bon, on va pas dévoiler hein, tout l'album, mais elle va intervenir, et c'est ça que j'aimais bien aussi de mettre Mary dans cette position, comme les petites filles aujourd'hui, finalement.
Oui, tout à fait, je ne sais pas si tu as des enfants, mais...
Eh bien, j'ai pas d'enfants.
C'est comme exactement Isaac. Comme ça que ça se passe.
Oui, voilà. Et en fait, ce qui est important, c'est que quand on parle du passé, c'est pour mieux parler... d'aujourd'hui, bon, on a compris évidemment les résonances des guerres et de l'humanité et j'avais vraiment envie de parler de nous aujourd'hui à travers le conte et Rebecca, c'est aussi parler de féminisme quelque part et des femmes qui ont vraiment une implication très forte. Je pense à Wangari Mutamatai qui a été prix Nobel de la paix en 2004 et qui est la femme qui plantait des arbres au Kenya, qui est décédée maintenant, mais qui a été vraiment une combattante pour mais pas uniquement écologique, hein, aussi au niveau politique. Je pense à Julie Butterfly Hill qui est restée dans un séquoia pendant plus de 800 jours, donc où on venait l'alimenter avec pour éviter de la destruction d'une forêt en Californie. Donc voilà, il y a ces résonances là qui sont présentes et qui parlent du monde d'aujourd'hui.
Il y a une chose que je voulais éclaircir avec toi, parce que ce Isaac qui vit dans un appartement et il y a un trou dans le mur.
Ouais.
Et il voit Londres à travers ce trou. Est-ce que c'est une galanterie? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que ça a une signification particulière? Mais ça, j'ai pas trouvé.
Oui, alors il y a plein de petits symboles que moi-même je mets en scène et qui trouvent du sens par après. Et ça, c'est j'ai retrouvé les tout premiers croquis que j'avais fait il y a 7-8 ans. Et ça a tout de suite été cette idée de cette maison détruite et cette maison qui s'ouvre vers la ville et ce regard vers l'extérieur. Peut-être un contraste entre le yin et le yang, la destruction et puis l'ouverture vers les autres.
Parce qu'en même temps, il y a un policier qui rentre chez lui qui dit « Waouh, vous avez une belle vue !»
Voilà. Et c'est ces contrastes-là qui... Ouais, c'est... Quand je dis le yin et le yang, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment incarné en moi et qui se développe malgré moi.
Pour reparler du dessin, et ça c'est une chose qu'on découvre au fur et à mesure de l'album, c'est qu'il y a des scènes de guerre, c'est surtout des scènes de bombardement, il y a des scènes d'avions, enfin ça c'est assez génial. Et tout ça est contrasté par des scènes très oniriques, le conte, où on visualise ce que voit la petite fille en fait, hein, notamment les éléphants avec les ballons anti-bombardement. C'est particulièrement bien agencé, on passe de l'un à l'autre sans effort, j'allais dire, quand on est lecteur.
Ça, c'est vraiment le travail du scénariste et en même temps du dessinateur, parce que j'écris en dessinant, mais c'est vraiment le travail du montage. C'est-à-dire, il faut vraiment timer. Et là, bon, ma femme m'a aidé, mon éditeur m'a aidé aussi à ne pas en mettre trop dans le conte, vraiment gérer un rythme qui est vraiment le mieux équilibré sur l'histoire. Mais c'était l'idée que j'avais vraiment dès le départ. C'est-à-dire que très tôt, je savais que j'allais mettre en jeu le conte et l'histoire avec un grand H, et donc des dessins très différents. C'est ça qui me plaisait, c'est d'arriver... Après, j'ai repensé au film Le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, où il y a aussi un contexte de guerre et une enfant qui se projette dans un monde onirique. Et je me suis dit, ouais, là, il y a quelque chose qui est intéressant à mettre en jeu dans une bande dessinée. C'est-à-dire qu'une bande dessinée, on peut feuilleter l'album et déjà, on voit des choses qui sont particulières dans l'agencement et dans les couleurs. Donc, il y a les couleurs de l'histoire très, très sépia et les couleurs du conte qui sont des couleurs éclatantes qui rejoignent évidemment l'arbre aux mille couleurs.
Quand on lit bien l'album, il y a aussi plein de contes qui se surajoutent, qui se glissent dedans, notamment le conte du cygne, du fameux cygne, tu sais, qui est petit, qui est moche et qui devient un beau cygne à la fin, quoi. Là, il y a plein de contes. Moi, j'en ai vu deux ou trois, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup, quoi.
Franchement, je l'ai pas fait exprès. Le cygne, bon, ils sont au bord du lac, et puis j'ai pensé au cygne noir, de nouveau, le yin et le yang, hein, le positif et le noir et le blanc, quoi. Et parce que bah, une ode à la vie dans ce contraste-là, d'essayer de se soigner des agressions extérieures, comment on fait face à l'adversité. Et alors, il y a des choses qui ressurgissent comme ça, qui sont étonnantes. Tout était pratiquement dessiné. Je pensais évidemment à Lewis Carroll, puisque je fais allusion à Peter Pan. Impossible de parler de l'imaginaire à Londres sans parler de Lewis Carroll. Et je vois une émission qui parle de son manuscrit et de l'histoire de l'écriture. Et je me rends compte, bon, Alice, je savais, elle avait existé, mais je ne connaissais pas l'histoire. Et en fait, Lewis Carroll, j'ai oublié son nom, son vrai nom, puisque Lewis Carroll est un nom de plume, il raconte l'histoire à Alice une après-midi dans une barque sur un plan d'eau, c'est du côté d'Oxford, pas à Londres, mais sur un plan d'eau dans une barque. Alors que j'avais dessiné, c'est pour moi le contraire, c'est la fin de l'histoire entre Mary et Isaac, où il raconte la fin de l'histoire sur une barque. Et voilà, il y a des résonances comme ça qui sont assez étonnantes. Ce qui était important, c'est aussi la transmission des histoires par la parole. Voilà, les contes dans la tradition de l'humanité, c'est une tradition orale. Et Lewis Carroll, c'était d'abord raconter l'histoire, voilà, qu'il improvise oralement, et puis il s'est dit, tiens, je vais écrire cette histoire. Et il a offert le manuscrit à Alice. Et donc voilà, bon, quand les lecteurs auront lu l'album, ils verront les résonances. Oui. Je l'ai pas fait exprès, et c'est là que je me dis, il y a des connexions qui viennent, de je sais pas où et qui sont formidables.
Bon, on va s'arrêter là alors de je sais pas où. Alors.
Oui.
Je rappelle juste donc le partage des mondes. Olivier Grenson, tu es l'auteur, le scénariste, le coloriste et surtout le dessinateur. C'est publié par les éditions du Lombard. C'est un énorme album et moi j'adore les énormes albums. Ça fait 250 pages, et c'est combien ? 25,90, donc c'est quasiment donné. Ça serait dommage de s'en priver, en tout cas. Olivier, je te remercie, et à bientôt.
Ouais, merci beaucoup, très bientôt.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.